Ophtalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambaud. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique.
En 2018, le professeur Gérard Mouroux de l'École Polytechnique et Donna Strickland de l'Université d'Auckland ont reçu le prix Nobel de physique pour la technique d'amplification par dérive de fréquence qui a permis le développement des lasers de haute puissance comme le laser femtoseconde utilisé en ophtalmologie. Le professeur Mouroux a présenté lors de la remise de son prix Nobel d'autres applications qu'il compte faire émerger, comme la transmutation des déchets nucléaires qui permet de transformer les déchets radioactifs en éléments dont le temps de vie sera de quelques dizaines d'années. Une autre application envisagée est la production de thorium, élément 300 fois plus efficace que l'uranium pour l'énergie nucléaire, et qui, contrairement à l'uranium, ne permettra pas la production du plutonium nécessaire pour les bombes atomiques. Enfin, de nombreuses autres applications pourraient émerger comme le traitement du cancer. Nous nous intéressons dans ces entretiens en trois parties avec le professeur Dan Reinstein à la chirurgie réfractive cornéenne au laser femtoseconde par extraction lenticulaire. Nous publierons un épisode chaque semaine de ce grand format du podcast Ophtalmo sur le Smile.
Nous sommes très honorés d'accueillir le professeur Dan Reinstein, qui est fondateur et directeur médical de la London Vision Clinic. Il est également professeur d'ophtalmologie à l'Université Columbia à New York et au Centre Hospitalier National d'Ophtalmologie des 15-20 à Paris. Le professeur Reinstein est membre du comité de rédaction de nombreuses revues, dont le Journal of Refractive Surgery. Il a publié plus de 200 articles scientifiques. Nous précisons à nos auditeurs avant de débuter cet épisode que le professeur Reinstein est consultant pour la société Zeiss. Bonjour professeur Reinstein et merci.
Bonjour.
Alors professeur Reinstein, quels sont les avantages et les inconvénients du SMILE ?
D'abord, il faut préciser que le SMILE, ce n'est plus une nouvelle technique. Hein. Je pense qu'on est à peu près 8 millions de procédures déjà faites. Donc c'est pas... C'est peut-être nouveau pour quelques chirurgiens, mais ça fait plus de 10 ans et plus de 500 publications. Donc, c'est vraiment une procédure qui est déjà carrément établie comme une voie pour corriger la myopie. En général, en parlant des avantages, eh bien, il faut aussi dire que il n'y a pas une procédure qui a tous les avantages. Et c'est-à-dire, dire que SMILE, c'est mieux que LASIK, c'est mieux que PRK, c'est pas intelligent. Parce qu'en fait, chaque procédure peut être la meilleure option. Cependant, l'œil du patient, la situation du patient et voilà, tout ça. Donc, quand on choisit SMILE, c'est pour les avantages que ça offre que on peut pas atteindre avec LASIK, avec PRK, avec un ICL. C'est-à-dire, il est minimally invasive. Hein? C'est du keyhole surgery. Bien sûr, les résultats sont excellents, mais on arrive à des excellents résultats avec les autres procédures aussi. Je crois qu'on peut dire que la sécheresse de l'œil, les symptômes de sécheresse sont moins avec SMILE que avec les autres procédures. On sait que la biomécanique change moins avec le SMILE. Ça, tout seul, n'est pas un avantage. L'avantage du fait que la biomécanique change moins fait que on peut traiter avec des zones optiques beaucoup plus larges et donc avoir meilleur contrôle de l'aberration sphérique et donc avoir meilleur contraste et meilleure qualité de vision pour les hautes myopies en comparaison à LASIK ou PRK. Avec la version, disons, 2.0 de SMILE, le Visimax 800, vraiment, on a une procédure maintenant qui est incroyablement sophistiquée, bien aussi du point de vue du chirurgien, mais aussi du point de vue du patient, qui ne bouge pas, ne voit rien, et c'est fini dans 6-7 minutes, les deux yeux. Donc c'est vraiment, c'est du Star Trek, de la médecine Star Trek. Welcome to the Star Trek Enterprise.
Quelles sont les indications et peut-être les contre-indications du smile, selon vous?
Bon, en fait, d'abord, il faut dire que les indications du smile sont pareilles que les indications de toute chirurgie de la cornée, de façon réfractive. C'est-à-dire, il faut pas que on trouve du kératocone. Il faut pas que il y a des pathologies cornéennes. La santé du patient, c'est-à-dire la situation inflammatoire, auto-immune, toutes les contre-indications qu'on a avec SMILE, c'est pareil pour les autres procédures cornéennes. Pour SMILE, les avantages du point de vue indication, c'est que on peut faire un SMILE et le patient le lendemain peut faire une compétition de taekwondo. Parce qu'il y a pas de partie qui bouge. Il n'y a pas de flap. Donc, on a tous les avantages de PRK vis-à-vis manque de flap, mais sans les désavantages des PRK, qui sont entre douleur, contrôle de la douleur, et éventuellement, peut-être, comment est-ce qu'on dit, recurrent erosion syndrome.
Qui rappelle, j'ai récidivante, oui.
Et au-delà de ça, late haze, le haze qui peut après apparaître 10 ans après, pendant une vacance aux Bahamas, parce que la susceptibilité à UV, elle est permanente après PRK. Donc, on atteint tous les avantages de PRK sans les désavantages. Pour l'instant, on ne corrige pas l'hypermétropie, on pourrait parler de ça après, et ce n'est pas c'est un traitement qui n'est pas individualisé du point de vue topographie. Donc, il y a des cas où on préfère traiter avec LASIK ou PRK parce que on peut faire un traitement topographique. J'aimerais bien ajouter que chaque compagnie, le problème, bon, moi je suis lié avec Zeiss depuis 23 ans. Chaque compagnie prétend que leur procédure est la meilleure procédure pour chaque œil. Et on a une compagnie qui dit que tout le monde doit avoir du topo-guided truc. Une autre qui dit que tout le monde doit avoir trans-PRK. Zeiss, auparavant, ils ont dit que tout le monde doit avoir du smile, il y aura plus de eczéma. Star, ils sont en train de dire que la myopie jusqu'à moins 1, il faut traiter avec un ICL. Bon. La vérité, c'est que quand on fait l'ensemble, par exemple, nous, on analyse le pourcentage de procédures qu'on fait dans chaque domaine, et nous, on choisit, basé sur la science et sur l'évidence, de la procédure qui serait mieux pour chaque patient. Et le patient chez nous paye également pareil, PRK, SMILE, LASIK, topo, n'importe quoi. C'est toujours la même tarif pour le patient. Pourquoi? Parce que comme ça, on enlève une décision financière où on sépare la décision financière à la décision qualité de vision. C'est-à-dire, si on n'a pas l'argent pour se traiter avec la meilleure technique pour ses yeux, il faut attendre, faire un été moins sans les vacances au club méditerranéen. Et là, on revient la prochaine année et on fait la procédure qu'il faut faire. La philosophie que j'ai commencé à London Vision Clinic il y a 24 ans, c'est que le patient ne choisit pas sa procédure. Sauf s'ils sont chirurgiens réfractifs, donc on peut avoir une discussion. Mais l'opinion du chirurgien doit être la meilleure. Disons, ça serait effrayant si le patient doit choisir quelle procédure, comme s'ils étaient tous égaux. OK, donc voilà. Indication pour SMILE, c'est évident, mais il faut pas baisser l'opinion des autres procédures en même temps.
Merci beaucoup, professeur. Et alors, dans quel cas vous allez préférer réaliser un LASIK plutôt qu'un SMILE?
Oui, donc, par exemple, traitement hypermétropique, traitement presbytie, presbyon, même myopie et hypermétropie. Parce qu'on ne peut pas faire presbyonde avec SMILE. On peut faire monovision avec SMILE, mais ce n'est pas la même chose du tout. Bien sûr, un patient qui a un métier violent, avec une possibilité de violence, policier, joueur de football, quelqu'un qui doit tout de suite résumer des activités qui peuvent être susceptibles à trauma oculaire, bien sûr, SMILE, c'est mieux. Donc, on ne ferait pas LASIK. Mais de l'autre côté, on choisirait SMILE, LASIK, au lieu de SMILE, si le patient doit avoir une qualité de vision, la meilleure qualité de vision pour retourner au travail le plus vite. Par exemple, les pilotes d'avion. Je ne sais pas si vous avez vu, on a publié une étude, je crois que c'est l'année dernière, presbyonde dans des pilotes commerciaux. On sait que la récupération visuelle avec LASIK, il est presque instantané. Hein, déjà, on se lève de la table, il voit 20-30. Le lendemain, ils sont 15 dixièmes, 20 dixièmes. Tout de suite. SMILE, c'est un petit peu plus lent. Donc, les halos, tout ça, ça peut être bien plus vite lâché avec LASIK. Donc, c'est une situation où on choisirait ça. Dentiste, chirurgien, ophtalmologiste, you know, il faut avoir une récupération plus vite. Et bien sûr, s'il faut customiser le traitement, s'il faut individualiser le traitement, ben, on choisit LASIK.
Alors, vous avez déjà un petit peu répondu à ma prochaine question, mais quel est le temps de récupération après un SMILE? Est-ce que c'est dû, si le temps est un petit peu plus long, au stretching du stroma lors de la dissection du lenticule? Et enfin, le patient, quand est-ce qu'il peut reprendre le travail? Est-ce qu'il peut reprendre le travail le lendemain ou est-ce qu'il faut attendre un peu?
Si je vous donnais la réponse il y a 10 ans, ça serait différent qu'aujourd'hui. Donc le SMILE, quand il est sorti, il était un peu difficile. Des fois, la récupération prenait un mois. Ce qu'on a pris, et ce qu'on a mis dans notre texte de SMILE, livre de texte, donc on a beaucoup appris sur, vous mentionnez la force de dissection qu'on doit utiliser, mais ça c'est lié à l'énergie, la séparation des spots. Et donc, il y a une matrice de variables qu'il faut supérer, il faut dominer en tant que chirurgien de SMILE. Et c'est un processus actif. C'est-à-dire, pendant le premier œil d'un patient, je suis en train d'analyser la qualité des découpes. Je peux faire une décision de changer quelque chose avec les settings d'énergie pour le deuxième œil. Et bien sûr, on opère toujours l'œil non dominant parce que comme ça, on protège l'œil dominant pour un ajustement qu'on voulait faire. Les études sur la récupération de vision avec SMILE montrent que en ce moment, on fait plus des excuses aux patients. C'est-à-dire, il y a 10 ans, on disait, les patients disaient, oui, je préfère le keyhole parce que ça c'est mieux. Ok, mais vous vous rendez compte que le lendemain, vous allez être à côté d'un patient qui a eu LASIK, ils vont voir beaucoup mieux que vous. On disait ça il y a 10 ans. Maintenant, on ne dit plus. Parce que maintenant, disons, la différence, elle est entre 80% des patients qui ont presque 10 dixièmes, au lieu de que ça soit 95 avec LASIK. Donc, c'est une différence, mais c'est pas une grande différence. Et en plus, presque tous les patients ont 5 dixièmes. Donc, on peut dire aux patients, le lendemain, ça va pas être totalement clair, mais la plupart des gens peuvent conduire le lendemain, peuvent aller au travail. Bon, c'est pas clair, faut se battre un peu, mais on y arrive. Donc, personne ne prend pas du temps de congé pour avoir SMILE ou LASIK. PRK, c'est une autre chose.
Est-ce que c'est lié à l'amélioration du laser ou est-ce que c'est aussi lié à l'expérience chirurgicale? Et donc ma question, c'est combien de temps il va falloir un chirurgien qui n'a jamais fait de smile et qui commence pour avoir des résultats satisfaisants dès le lendemain?
Toute ma carrière, j'ai toujours dit la même chose. Un débutant peut commencer avec les mêmes résultats d'un expert le premier jour si le débutant suit la procédure standard. C'est-à-dire, moi j'entraîne des fellows ici dans ma clinique. Ils n'ont pas le droit de modifier rien, même pas ce qu'on dit aux patients pendant la procédure. Le script qu'on utilise avec les patients, il est protocolisé. Parce que c'est pas un hasard les paroles qu'on utilise dans le script. Tout est dessiné parfaitement pour éviter les complications, pour donner aux patients une bonne expérience avec moins d'anxiété, tout ça. Donc, en fait, je dirais que un débutant peut avoir des excellents résultats tout de suite si, par exemple, ils étudient Surgeon's Guide to Smile et ils suivent les pas exactement. Nous, on divise l'extraction, par exemple, l'extraction de du lenticule. Ça nous prend entre 20 et 25 secondes, en général. Pour faire ça, ces 20 secondes, on les divise en 20 pas individuels. Et chaque pas, quand on enseigne ça, on a un cours qu'on fait tous les années, ici à Londres, dans le cours, on décrit exactement la façon standard d'enlever une lenticule. On passe 5 ou 6 minutes par chaque un des 20 pas. Donc, ça prend presque 2 heures pour expliquer comment faire 20 secondes. Mais quand on rentre à ce niveau de détail, le débutant, il a des très bons résultats tout de suite. Parce qu'il n'est pas en train de refaire, reapprendre, de réinventer tout. Nous, on a fait ça déjà et on a souffert. Mais les patients ont souffert. Disons, dans les études qui montrent la récupération vis-à-vis l'intensité lumineuse rétrodiffusée, c'est-à-dire backscatter, on dit, oui, on trouve que cette intensité lumineuse rétrodiffusée est plus élevée pendant les premiers 3 mois avec SMILE qu'avec LASIK. Et bon, raison, la matrice extracellulaire, kératocyte activé. Bon, tout ça fait que SMILE, c'est un peu plus lent. Et donc, un métier où il faut du contraste parfait, il faut penser, surtout aller à un chirurgien de SMILE qui fait ça tout le temps et qui a son laser affiné parfaitement et qu'il sait ou elle sait changer les settings à la minute, et comment et pourquoi. Et là, bien, j'ai opéré des pilotes. Par exemple, un pilote qui dit j'ai pris 3 semaines ou j'ai pris 2 semaines de vacances. Et c'est, ok, on peut faire SMILE. Mais on est mercredi et il a son vol à Peking lundi. Non, c'est LASIK. D'ailleurs, c'est pas vrai parce que c'est un mauvais exemple. Un chirurgien qui veut opérer le lendemain ou le jour après, oui, LASIK. Mais un pilote, il faut qu'il t'attend 4 à 6 semaines de toute façon parce que c'est les régulations.
Dans votre pratique à Londres, en chirurgie réfractive cornéenne, quelle est la proportion des différentes techniques PKR, trans-PKR, LASIK et SMILE?
Ok, donc sans expliquer les numéros, on pratique avec beaucoup de détails, mais on a assez un volume assez important parce qu'on fait que ça. Ici, en SMILE, on fait à peu près 60% des cas sont SMILE, à peu près juste au-dessous de 40% sont LASIK. Bien sûr, tous les presbyons sont LASIK. PKR, -1%. Et je crois que la chiffre exacte, c'est 0,3%. On fait presque pas de la PKR. Vous pouvez me demander pourquoi.
Pourquoi?
Parce que c'est de la merde pour le patient.
Okay.
C'est la procédure qui est bonne, c'est une bonne procédure pour un chirurgien réfractif qui ne sait pas bien faire LASIK. C'est mieux, en fait. Parce que les résultats sont excellents. Bon, ça prend du temps pour avoir la qualité de vision. Ça prend du temps pour ne pas devoir prendre des médicaments pour la douleur. Et ça prend du temps pour moduler le haze avec des stéroïdes. Vous vous souvenez que 25% des myopes sont répondeurs avec la tension oculaire. Donc, c'est tout un truc, hein, la PRK. En plus, j'ai mentionné avant que, de façon permanente, on est susceptible à la lumière UV pour développer haze, même 10, 20 ans après. Voilà, c'est une procédure qui n'est pas un avantage pour le patient du tout. Mais on l'utilise et on ne dit pas que c'est mauvais si c'est la meilleure procédure. Et pourquoi c'est la meilleure procédure? Bah, si un patient, vous avez dit recurrent erosion syndrome.
Kératalgie récidivante, oui.
Donc ça, avec Cogan's, basement membrane dystrophy disease, si le patient a un épithélium irrégulier et que l'astigmatisme varie d'un mois à l'autre, que le patient se réveille tous les matins avec douleur, c'est évident que le traitement, c'est PRK pour traiter la réfraction et le ABMD Cogan's en même temps. Par exemple, une cicatrice après l'infection acquérie avec les lentilles de contact. Bien sûr, si l'infection a laissé une cicatrice centrale et la vision a baissé, c'est parfait. Le moins 5 se corrige en même temps qu'on enlève la cicatrice. Mais à part les situations où il y a des raisons, non. Souvent, on dit « Ah, la cornée, elle est trop fine pour faire du LASIK. »
Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Oui.
On peut pas dire ça maintenant. Ça n'arrive plus. Parce que avec un Visumax, on peut couper un flap de 80 microns. OK? 80 microns, c'est 30 microns de stroma et 50 de épithélium. Bon, il faut savoir, la reposée sont des micro-plis, mais ça, c'est l'expert qui fait ça. Et on a publié, d'ailleurs, l'année dernière, 14 000 œils avec la technique standardisée pour montrer qu'on peut avoir zéro micro-plis en 14 000 œils consécutifs. Mais il faut suivre la technique standard, pas réinventer tout. Donc, si on fait un volet avec 30 microns de stroma et que on veut laisser 300 microns de stroma, c'est-à-dire une cornée de 350, OK? Parce que l'épithélium, il est 150. Le flap de 80 vous laisse à 270 de résiduel et chez nous, depuis 20 ans, c'est 250, pas 300. PRK, c'est 300. Parce qu'il n'y a pas de volet, il n'y a pas. Mais LASIK, c'est 250. Et SMILE, c'est 250. Donc, on n'arrive jamais à ne pas pouvoir traiter par le fait qu'il n'y a pas cette cornée. Parce que les volets sont super fins maintenant. Donc, on n'arrive plus à cette situation. Et l'idée qui a été publiée par un de mes collègues professeurs en Allemagne, dans un éditorial sans rien d'évidence, il a publié qu'il ne faut pas faire LASIK au-dessous de 500 microns de cornée. C'est complètement sans évidence. Rien à voir avec la science. C'est-à-dire, il y a 30 ans, on diagnostiquait le kératocone par une pachymétrie. Il y a 30 ans. Ou la pachymétrie, elle est fine. Ou peut-être c'est un kératocone. Maintenant, on diagnostique le kératocone par une cartographie épithéliale, même pas tomographie. La cartographie épithéliale est beaucoup plus sensible à trouver un kératocone qu'on ne peut même pas voir avec la topographie ou tomographie. Donc, on est dépassé des gros paramètres imprécis comme pachymétrie pour diagnostiquer kératocone. Donc, si un patient n'a pas kératocone et on peut enlever le moins 2 sous un volet de 90 microns, Bah, on le fait. On ne fait pas per cas. Pourquoi?
Et est-ce que vous avez une limite de pachymétrie minimale quand même pour traiter?
Non.
C'est que non. Le stroma résiduel qui compte.
Bon, écoute, la pachymétrie peut être liée à une maladie coronaire. Donc, exclu kératocone, exclu megalocornea, exclu hyperextensibility, Ehlers-Danlos 3, 4, les conditions qui peuvent affecter l'élasticité de la cornée, qui peuvent créer des cornées qui sont souples. D'ailleurs, comme Renato Ambrosio dit, il faut qu'on diagnostique une cornée préopératoire d'une façon modale. Épithélium, topographie, tomographie, biomécanique, tout ensemble pour voir qui peut s'opérer. Donc, mettre des limites de pachymétrie, ça a à voir avec la réfraction. On ne peut pas traiter à moins 10 dans une cornée de 460, mais on peut traiter à moins 1,5 facilement, par LASIK, par SMILE, c'est bien. S'il n'y a pas de maladie cornéenne, et on a fait le screening. Et si le patient est très jeune, et la biomécanique, elle est un peu, on n'est pas sûr, ben on ne perd pas. Parce que la chirurgie réfractive, c'est pas une appendicectomie. Hein, on le fait, c'est un choix. J'ai opéré 35 000 œils en ce moment. Et j'ai rejeté beaucoup d'œils. J'ai dit non, faut attendre. Vous revenez dans 2 ans. Et ça m'a pas manqué.
Nous retrouverons très prochainement le professeur Dan Reinstein pour la deuxième partie de cet épisode consacré à la chirurgie lenticulaire.
Ophtalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le.